Troubles anorectaux, intérêt d'une rééducation spécialisée dans le kiné actualité du jeudi 2 septembre 2010. Article signé par Ghislaine Philippe, comme les prénoms, Max-Claude Capelletti, CA2PE2LE2TI, MK, spécialisé en rééducation anorectale, membre de l'association Réseau en rééducation périnéale, la RREP. Mot-clé, asynchronisme abdominopelvien, constipation, rééducation anorectale, dyskésie, anisme. Rappel anatomophysiologique. Le côlon peut être divisé en deux unités motrices, partie droite, côlon ascendant, qui est mélangeur, brasseur et réabsorbeur, une partie médiane horizontale ou côlon transverse qui est le frein et un stockeur de matière, une partie gauche ou côlon descendant dans lequel on observe des mouvements de masse survenant 3-4 fois par jour et transportant d'importantes masses fécales sur des longues distances. Les mouvements, toujours dans le sens céphalo-caudal, sont susceptibles d'être déclenchés par l'alimentation, l'activité physique et par des substances irritantes. La constipation se caractérise par deux troubles, le trouble de la progression, constipation de transit, et le trouble de l'évacuation, la constipation terminale. La continence et la défécation ne représentent qu'une seule fonction qui permet de satisfaire un besoin exonérateur au moment approprié lorsque des matières fécales pénètrent dans le rectum. Cela provoque une perception consciente du besoin en distendant la paroi rectale, récepteur barosensible, un phénomène réflexe, le réflexe recto-anal inhibiteur RRAI, qui ouvre la partie haute du canal anal permettant au contenu rectal d'y pénétrer. L'innervation sensitive riche du canal apprécie la nature du contenu rectal. Simultanément, la contraction réflexe du sphincter anal externe ferme la partie basse du canal, prévenant l'issue inopinée des matières. Dès lors, le sujet va pouvoir satisfaire ou non son besoin. Les réflexes normaux intervenant lors de l'exonération peuvent être perturbés. Le relâchement peut faire place à une contraction paradoxale qualifiée d'asynchronisme qui peut exister sans trouble neurologique et résulter simplement d'un trouble fonctionnel souvent présent dans les constipations terminales. Appelons-le le asynchronisme abdominopelvien pour le différencier du terme de dyskésie désignant une exonération anormalement difficile sans préjuger de la cause et de l'anisme, terme pouvant être restrictif car faisant référence à une obstruction anale alors que la contraction paradoxale peut concerner d'autres muscles du plancher périnéal. De nombreuses études et les travaux de Shafik, S-H-A-F-I-K, montrent une contraction simultanée du sphincter anal et du puborectal. La rééducation consiste souvent à réapprendre cette synergie abdomino-sphinctérienne. Examen clinique. Pour être exécuté avec toute l'attention nécessaire, le bilan anorectal mérite un stage de perfectionnement et un matériel approprié. L'examen débutera par l'inspection locale et la palpation pour vérifier la souplesse et l'indolence de la marge anale. L'introduction de l'index dans le canal anal appréciera d'emblée sa tonicité au repos, puis lors de la contraction volontaire. Plus profondément, on perçoit facilement la corde du puborectalis, latéralement et en arrière du canal anal. Le muscle ilio-coccygien est palpé de part et d'autre du coccyx. Le muscle obturateur interne est palpé latéralement et plus en avant en dynamique. Nous apprécierons la contraction volontaire du sphincter anal, des muscles bulbo-caverneux et du muscle puborectal. L'appréciation de la résistance musculaire à l'étirement permet d'évaluer le tonus de repos, validé au même titre que la contraction volontaire pour l'appareil sphinctérien. Ce test peut s'appliquer aussi au puborectal, étiré vers l'arrière, et au périnée superficiel, étiré vers le bas. La mobilisation du périnée antérieur et postérieur lors d'un effort de poussée renseigne aussi sur le tonus. Normalement, le périnée est stable. Une descente périnéale signera une hypotonie. Une ascension traduira une contraction paradoxale. Protocole de traitement. La rééducation anorectale nécessite un matériel spécifique permettant de contrôler simultanément la sensibilité et la contractilité de tous les éléments de la filière. Sondes, ballons et appareils munis de voies pression. Il convient, en fonction du bilan, d'expliquer les buts du traitement et éventuellement d'établir des conventions verbales et gestuelles avec les patients. Réintégration ou acquisition d'un langage explicite, dépouillé de la gagaphasie infantile, si souvent rencontrée, eu égard au lieu géographique des bas morceaux, mais aussi d'un schéma corporel retrouvé. Dénomination et repérage des endroits stratégiques, apprentissage du matériel et si besoin, surtout chez les enfants, manipulation de ce dernier, ballon gonflé et dégonflé, seringue, lubrifiant, etc. Le rectum devant être vide, il est conseillé de ne pas accepter la séance si le patient n'a pas pris en charge sa vidange. Produits facilitants, Normacol, Spagulax, paraffine, en fonction de la tolérance de chacun. Pour améliorer la consistance des selles, Spagulax en sachet et Parapsilium, en cas d'échec, suppositoire déductile, un dégagement gazeux. Lavement, si échec à l'aide de préparations comme les micro-lavements Microlax, Normacol, Disquelax. Ou plus simplement, lavage rectal à l'eau tiède. Rarement, on sera amené à conseiller des laxatifs, doux type Jamilène pour de courtes périodes. Rétablir le processus déféquant. Position sur les toilettes sans hyperlordose. Calme, heure fixe. Après stimuli du réflexe gastrocolique, petit déjeuner, eau fraîche, etc. Relaxation de la zone périnéale. Poussée dans un axe inféro-postérieur, brève, sans surpression. Traitement relevant de la continence. L'électrodiagnostic pratiqué lors du bilan doit montrer l'utilité et surtout l'inutilité, voire le danger de l'électrostimulation. Le plus souvent, on travaillera la dynamique avec l'aide du biofeedback. Cependant, dans certains cas d'hypotonie du SAE, on pourra s'aider d'une stimulation classique 50 Hz rectangulaire à moyenne nulle et pour les régulations du métamère sacré et agir sur les troubles vésico-sphinctériens et du complexe anorectal, on pourra utiliser la stimulation d'une aire tibiale postérieure à pratiquer au domicile du patient tous les jours avec contrôle mensuel. Compte tenu du fonctionnement particulier de la portion terminale de l'intestin, il ne semble pas possible, comme pour la vessie, d'utiliser seul le pouvoir inhibant de l'électromyostimulation. Il s'agira par conséquent d'axer cette dernière sur la correction des incontinences. Système résistif. Dans le cas de sujets souffrant d'anisme, le SAE entre en contraction involontaire lors des efforts de défécation et cette activité exagérée est responsable du maintien de la barrière de pression entre le rectum et l'air ambiant. Il est nécessaire que le patient se rende compte de la très grande pression qui y règne, ce qui se constate aisément grâce au positionnement adéquat du ballon récepteur. On observe souvent de brutales augmentations de pression ne correspondant pas à une activité physiologique. Il peut s'agir d'une personne étrangère qui entre dans la pièce, d'un bruit inhabituel, du moindre mouvement de la sonde, d'un ordre inamical, d'un réflexe à point de départ sensoriel qui provoque une ascension vers le rectum d'un mobile fécal. Cette instabilité liée à une perte de contrôle doit certainement jouer lorsque le fesse est engagé dans le canal anal, son cheminement étant alors perturbé. Lorsque le patient a identifié la fonction relaxante, on lui montre que l'augmentation du pression du ballon rectal, visible sur le moniteur et correspondant à la poussée déféquante, doit simultanément obtenir une baisse de pression au niveau du canal anal. C'est le travail de synchronisation abdominopérinéale. On peut profiter de la survenue d'une inhibition du SAI provoquée par l'insufflation brutale dans le ballon rectal pour demander que cette inhibition soit propagée au SAE. Réflexe acquis donc reprogrammable. On considère qu'une bonne synchronisation permet d'expulser sans problème un ballon gonflé de 30 à 40 ml. Système capacitif. Le petit ballon dans le canal anal, on adapte la sensibilité rectale consciente par volume décroissant avec contrôle des contractions réflexes nociceptrices. Il n'est pas rare de rencontrer dans les mégarectums et responsables de constipation rectale une sensibilité rectale consciente retardée à 200 ml et plus. Il n'est par conséquent logique d'éduquer une nouvelle sensibilité. On demande au patient une écoute très fine de sa sensibilité afin d'en abaisser le seuil jusqu'à des niveaux physiologiques. Les erreurs de direction, de la poussée, de la désadaptation de la sangle abdominale, de la bascule trop prononcée en hyperlordose seront minutieusement corrigées sans trop de difficultés. Conclusion. Il est clair que la kinésithérapie a une place de choix dans le traitement des troubles coloproctologiques. Il ne faut cependant pas lui donner l'importance qu'elle n'a pas. Les patients devront avoir été convenablement explorés auparavant. C'est pourquoi le kinésithérapeute désireux d'être utile en coloproctologie devra être informé des techniques médicales et d'exploration afin de pouvoir, le moment venu, déployer son activité avec quelques chances de succès. La rééducation coloproctologique, bien que facilitée par les outils que nous venons de décrire, demeure un exercice de haute technologie. Pratiquée avec grand sérieux, elle doit entraîner un résultat souvent spectaculaire et rapide, pour peu que son indication ait été mûrement réfléchie. 5 à 6 séances sont généralement suffisantes pour obtenir une amélioration significative. Références bibliographiques, Cappelletti, manuel pratique de rééducation en coloproctologie. De plus, Alain, la sonde recto max double ballon. Bon, il n'y a pas de date. Shafik Sacha F.I.K. a pour le prénom A New Concept of the Anatomy of the Anal Sphincter Mechanism and the Physiology of Defecation. Mass Contraction of the Pelvic Floor Muscles. Interneurogynéco, J. Pelvic Floor Dysfonctionnement, 1998.9 de 28-32. Denis Perkoff Bizien et collaborateur, étude de la prévalence de l'incontinence fécale chez l'adulte. Gastroentérol, Clean Biol, 1992.16 de 344-350. Hoffman, Timke, Gatrit, Ick, Opelka, Beck, Fecal, Seepage and Soiling, A Problem of Rectal Sensation, 10:95.38 de 748-748. Leroy, M. Bruna et collaborateurs, analyse multifactorielle des signes cliniques des paramètres de la manométrie anorectale, de la défécographie du temps de transit et des marqueurs radio-opaques chez 76 patients se plaignant d'incontinence anale. Gastroentérol, Clean Biol, 1993.17 de 116-120. Rogue, R-O-I-G, j'y vais pour le prénom et collaborateur. Prévalence of pudendal neuropathy in fecal incontinence, result of a prospective study, 10:95.38 de 952-958. Ceti Carraro, S-E-T-I-C-A-2-R-A-R-O, P pour le prénom et collaborateur, Long Term Result of Post-Anal Repair for Neurologic Fecal Incontinence. BR, J, Surgery, 1994.81, 140-144. Abramovitz, A-B-R-A-M-O-V-I-T-Z, L pour le prénom et collaborateur, complications anales de la grossesse et de l'accouchement, gastroentérol, Clean, Biol, 2003.27 de 277-83. Sultan, A-H et collaborateur, anal sphincter, disruption during vaginal delivery, N, Angle, J, Med, 1993.329 de 1905-11. Cyprodis, S-I-P-R-O-U-D-H-I-S-L pour le prénom, traumatisme proctologique induit par l'accouchement. La lettre de l'hépatogastroentérologue, 2000.2 de 3-14. Site internet www.journee-journees-perineologie.com. Deuxième site www.proctos.com. Troisième www.journee, toujours avec deux e-perineologie.com. Ben c'est le même que le précédent. et JP Gallo, exploration fonctionnelle, et JF Lapret, radiologie, centre d'exploration du pelvis et du périnée à Lyon. www.lyon, comme la ville, /img/pdf/galop2, galup, et pdf.